à ouvrir vos Bibles en acte 17 à partir du verset 15. Je lis dans la version du Semeur. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'emmenèrent jusqu'à Athènes. L'apôtre leur demanda d'inviter de sa part Silas et Timothée à venir le rejoindre au plus tôt, puis ils repartirent. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient « Qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire ?» D'autres disaient « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait Jésus et la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'aréopage. « Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils, en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles ?»« Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. » Entre parenthèses, il se trouve en effet que tous les Athéniens, les gens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter des dernières nouvelles. Alors Paul se leva au milieu de l'aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes, à tous égards, extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription « À un dieu inconnu ». Ce que vous révélerez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples, pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu a invité les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants, entre guillemets. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or Dieu tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient, ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui dirent oh, « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Denis, un membre de l'aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Je vais juste essuyer mes yeux parce que la transpiration me coule dans l'œil. Elle pique et je ferme les yeux et je ne vois rien du tout. Merci. Pardon. Quelques mots sur le contexte. Nous sommes ici au cours du deuxième voyage missionnaire de Paul, un voyage qu'il a entrepris avec Silas et Timothée. Silas et Timothée qui, pour l'heure, sont restés dans leur étape précédente à Bérée en attendant de le rejoindre là où il se trouve à Athènes. Paul dans ce deuxième voyage, il est désormais habitué à faire face à toutes sortes de réactions, des plus réceptives à l'évangile, comme à Béré, précisément juste avant, aux plus hostiles, comme à Philippe ou à Thessalonique précédemment. Où qu'il passe, son discours ne laisse personne indifférent, en particulier parmi les Juifs, bien qu'étant des leurs, parmi lesquels sa prédication déclenche toutes sortes de controverses et même d'émeutes. Et l'indifférence des Athéniens, qui ressort de notre texte, le confronte à une situation tout à fait nouvelle. Alors vous l'avez remarqué, j'ai un peu accentué le ton sur ce terme-là, notre texte commence avec une petite incursion dans le cœur et la pensée de Paul. Bloqué à Athènes, en attendant l'arrivée de ses compagnons, Paul boue d'indignation. C'est fort, hein, c'est quelque chose qui exprime de manière vraiment forte ses émotions intérieures profondes. Et le sujet de son indignation, ce sont ses idoles qui pullulent à Athènes. On le sent atteint personnellement, peut-être même offensé. Bien que la mythologie grecque soit connue et déjà connue dans le monde antique pour sa pléiade de dieux, de demi-dieux, tout droit sortis de l'imagination des hommes et leur ressemblent souvent étrangement, souvent par le pire d'ailleurs, on sent que ce qu'il voit à Athènes dépasse ce qu'il a pu imaginer. Il est scandalisé, au sens profond du terme, et son incompréhension est profonde. Alors il en parle, et il en parle avec qui il veut bien en parler avec lui, les Juifs, les non-Juifs croyants en Dieu, qui fréquentent la synagogue, et tous ceux à la rencontre desquels il va intentionnellement. N'écartant personne, il soutient aussi le débat avec des philosophes épicuriens et stoïciens qui sont aux antipodes les uns des autres. Réprimant son indignation, il semble mettre à profit ses jours d'attente pour chercher à comprendre ces gens, leurs croyances, leur système de pensée, afin de trouver ce qui pourrait susciter leur curiosité pour l'Évangile. Il le dit lui-même, il parcourt les rues, il examine en détail les monuments sacrés. Dans ce fatras d'idolâtrie, il perçoit bien que l'Évangile pourrait n'être reçu que comme l'annonce d'un Dieu de plus. Et c'est d'ailleurs ce que confirment certaines réactions à la fin du passage, pas à la fin du passage, mais avant qu'ils prennent la parole, on dirait qu'ils prêchent des divinités étrangères. Donc il lui faut trouver quelque chose qui lui permette de capter l'attention afin d'en venir à l'annonce de l'Évangile proprement dite. Il semble qu'il ait renoncé, dans un premier temps, à ce qui vient naturellement à notre esprit en pareil cas. Dénoncer le mal, dénoncer l'idolâtrie. Proclamer haut et fort le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Il a conscience qu'ici, à Athènes, centre névralgique de toutes les philosophies du monde antique, ça ne portera pas. Il est un peu l'anti-Jonas, si vous voulez, qui annonçait le jugement sans amour et sans compassion. Et tant pis pour ceux, tant pis pour eux s'ils n'écoutent pas, après moi le déluge. À l'opposé de cela, Paul veut donner à cette population un maximum de chances d'entendre, comprendre et accueillir favorablement un évangile synonyme de salut et de vie éternelle. Et donc, en ravalant son indignation, toute légitime qu'elle soit, il choisit de centrer son message sur deux thèmes seulement, Jésus et résurrection. Une stratégie qui commence à payer, puisque la curiosité de plusieurs est éveillée. La mention du fait que les Athéniens passent le plus clair de leur temps à s'échanger des nouvelles n'est pas anodine. Un homme ressuscité des morts, c'est pas banal, en voilà une nouvelle. Paul a visé juste. Alors oui, bien sûr, il y a les blasés, qui le traite de discoureur, suivant les traductions, ou de pibavarde, dans la traduction de Sumer. Il y a ceux qui n'y prêtent qu'une oreille distraite, mais n'entendent là que l'annonce d'une nouvelle divinité étrangère, une de plus. Mais globalement, leur curiosité est quand même piquée au vif, suffisamment en tout cas pour qu'ils le conduisent à l'aréopage, ce qui est déjà le signe d'un certain intérêt. Alors l'aréopage, c'est une colline d'Athènes sur laquelle s'était longtemps tenu, dans les siècles passés avant Paul, un conseil de magistrats, le tribunal de l'aréopage. Du temps de Paul, il semble que ce conseil n'avait plus qu'un rôle moral, de conseil moral, et servait de lieu de débat philosophique et politique. Une telle occasion de parler devant un vaste public est donc inespérée, encore faut-il ne pas la gâcher. Mais l'attente de ses compagnons a donné à Paul le temps nécessaire pour comprendre le contexte, construire et rendre son discours accessible à l'esprit des Athéniens. Et quel discours ! Nous avons là l'illustration concrète du principe qu'il énonce aux Corinthiens « Je me fais tout à tous » afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut. Paul parle comme un grec. Il utilise les principes de la rhétorique grecque, partant de ce que ses auditeurs connaissent, de ce qui les intéresse eux, en les rejoignant dans leur culture. Il déroule avec audace toute une présentation du Dieu créateur universel, mais finalement personnel et proche de chacun, au point que chacun puisse être appelé son enfant. Et là seulement, il établit ce qui fait obstacle à cette filiation, le rejet de Dieu et de ses commandements. Un rejet qui se matérialise chez eux par une profusion d'idoles qui ne représentent qu'eux-mêmes, soumises aux mêmes passions, bien loin du Dieu saint, juste, parfait. Là seulement, il les invite à changer de vie dès à présent. Là seulement, il évoque le jugement au temps fixé par Dieu, au jour où la possibilité offerte aux hommes de changer prendra fin. Plus encore, il leur annonce que celui qui prononcera le jugement est aussi celui qui est venu les sauver, en l'occurrence Jésus, mais il ne cite pas son nom, et dont Dieu a garanti la victoire sur la mort en le ressuscitant des morts. Et puis il voudrait aller plus loin, mais il ne peut pas, il est interrompu, son discours, il est interrompu dans son discours par les moqueries de ceux que l'idée de la résurrection fait doucement rigoler. Et puis les sceptiques qui s'éloignent à leur tour, et là la fenêtre se referme. Est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que ça valait le coup ? Tous ces efforts pour comprendre ces gens et la culture. Est-ce que ça valait le coup de se torturer le cerveau pour leur annoncer un évangile auquel ils se montrent globalement imperméables, drapés dans l'indifférence, blasés de philosophie ? Et après tout, l'histoire semble donner raison à ceux qui, parmi les croyants de son temps, mettent en doute l'efficacité du ministère de Paul. Car en effet, le Nouveau Testament ne nous dit rien de plus sur la progression ultérieure de l'Évangile à Athènes suite à cette prédication, et nous n'avons pas la moindre épître aux Athéniens à nous mettre sous la dent pour en juger. Mais si le résultat de l'opération paraît en demi-teinte, comparativement à d'autres campagnes et au regard des efforts consentis, il ne l'est pas pour tout le monde. Pour ces quelques auditeurs qui deviennent croyants, dont deux sont nommément cités, Denis, un membre du conseil très influent de cet aréopage, et une femme nommée Damaris. Pour eux, et il nous est dit pour quelques autres, c'est 100% de salut, 100% de changement de vie, 100% de communion avec Dieu. Et puis je crois que nous avons beaucoup plus à tirer de ce texte que le seul récit de la conversion de quelques païens isolés aussi réjouissant soit-elle. Ce texte est programmatique pour toute annonce de l'Évangile dans un contexte civilisationnel certes riche, mais en déclin, arc-bouté sur un passé glorieux, en proie à toutes sortes de tensions politiques, philosophiques, religieuses. Vous aurez reconnu dans cette description notre civilisation occidentale, et en particulier celle de notre pays. Et ce n'est évidemment pas un hasard si j'ai choisi ce texte aujourd'hui, parce que, en effet, beaucoup de chrétiens se sont émus des images que nous avons pu voir lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et je trouve que ce texte constitue l'exemple presque parfait d'un parallèle entre le récit biblique et l'actualité, et pas seulement parce que la Grèce est le berceau de l'olympisme. La première chose qui nous permet d'établir ce parallèle vient dans les toutes premières lignes, c'est l'indignation qui gagne le cœur de Paul à la vue de toutes les idoles dont Athènes était remplie, ce qui, pour un juif de son temps, constitue le pire des péchés. Dans notre cas, elle se cristallise plutôt sur les valeurs morales en déclin dans notre société. Mais je retrouve dans ce que j'entends autour de moi, et principalement parmi les chrétiens, la même indignation, le même haut le cœur devant les tableaux qui ont été mis en avant pour présenter les valeurs de notre pays. Et à l'image de la surprise de Paul, confronté à la profusion des idoles, pour beaucoup d'entre nous, cela dépasse ce que nous avons pu imaginer. Une indignation légitime, argumentée et justifiée, donc comme celle qui fait bouillir intérieurement l'apôtre Paul. Cette indignation est renforcée par le sentiment de faire face à une forme de provocation. Bon nombre de chrétiens se sont sentis visés dans leur foi et dans leurs valeurs. Insultes envers les chrétiens, parodies humiliantes, moqueries sont des qualificatifs que nous avons entendus. Et même si la notion de provocation ne ressort pas aussi clairement, aussi forte dans notre texte, la présence des moqueurs autour de Paul et leur influence sur la foule est évidente. Mais lorsque j'observe l'attitude de Paul confronté à ces choses, je suis frappé de voir à quel travail sur lui-même il se livre avant de prendre la parole. On ne sait pas exactement combien de jours se passent entre son arrivée à Athènes et son discours sur l'Aréopage, puisqu'on sait qu'il attend l'arrivée de ses compagnons, mais il est évident que Paul met à profit ce temps pour étudier cette culture en détail, depuis le citoyen lambda, la rencontre duquel il va sur la place publique, les juifs, les non-juifs croyants dans la synagogue, et jusqu'aux philosophes épicuriens et stoïciens qui débattent quotidiennement. Et le cheminement intérieur de Paul l'amène à réfréner son indignation, à la dépasser, pour se replacer dans la perspective de sa mission d'annonce de l'Évangile. Non pas qu'il relative l'idolâtrie de ces gens, mais il accepte de partir de ce constat, de cet état de fait, aussi consternant soit-il. Les choses en sont à ce point, très bien, eh bien, que le Seigneur m'aide à trouver comment les atteindre. Et de fait, dénoncer leurs agissements idolâtres, ne constitue pas la première partie de son discours. Il tient à capter leur attention et éviter tout risque de rupture immédiate et prématurée. On le voit bien à la fin du discours. Quand c'est fini, c'est fini. Il sait qu'il n'aura pas de deuxième chance. Et pour cela, il accepte d'aller sur leur terrain, physiquement sur l'aréopage et relationnellement, en les rejoignant dans leur culture du débat philosophique. Sa comparaison entre le Dieu inconnu, ce Dieu inconnu Yahvé, est extrêmement audacieuse pour un juif, voire même limite. Si nous n'avions pas ce texte dans nos Bibles, je ne suis pas sûr qu'un prédicateur qui se hasarderait aujourd'hui sur ce terrain ne s'attirerait pas les foudres d'une bonne partie de la communauté chrétienne. Compromission, dénaturation de l'Évangile, complaisance sont probablement des accusations auxquelles il aurait à faire face. Il est évident que si vous mettez Pierre à la place de Paul, vous aurez un discours qui n'aura rien à voir. Mais comme Paul le dit lui-même, Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs et lui l'apôtre des païens. Et à Pierre, donc, les discours très directs pour les Juifs, habitués à parler des choses de Dieu, habitués à ce qu'on leur en parle sans détour, à l'image des prophètes de l'Ancien Testament, et à Paul, la tâche d'accomplir des ponts avec toutes sortes de cultures païennes afin de leur rendre accessible l'annonce de l'Évangile. Et bien évidemment, on ne peut que s'attrister de voir notre civilisation s'éloigner toujours plus des fondements bibliques, en particulier moraux, sans attrister déjà pour nous-mêmes, parce que cela augure d'une difficulté accrue de mener une vie paisible de croyants dans l'avenir, d'enseigner la parole de Dieu dans toute sa plénitude et en toute liberté, d'éduquer, d'enseigner nos enfants au milieu d'une génération en perte de repères moraux et spirituels, et puis bien sûr de s'en attrister pour nos contemporains eux-mêmes, pour la plupart inconscients de là où les mène cette déchéance, rendus insensibles aux avertissements bibliques par toute une culture de la moquerie caricaturale des croyants. Que nous, croyants, soyons la risée des moqueurs, eh bien, notre maître l'a été avant nous. C'est la part que nous prenons aux souffrances de notre Seigneur, et nous l'acceptons. Mais notre tristesse est plus grande au sujet de ceux que l'ennemi tient par ce moyen éloigné de la connaissance de Dieu. Néanmoins, cette tristesse, qui est peut-être la seconde phase après l'indignation initiale, peut marquer le point de départ d'un désir de passer à l'action. C'est triste, mais ma joie dans le Seigneur est intacte. Je dois communiquer cette joie. Je ne sais pas comment, mais cette joie, je ne veux pas la garder pour moi tout seul. Si cette joie nous anime, elle se verra sur notre visage et contribuera à une bonne réception de nos paroles. Et donc pour Paul, ça a pris du temps, possiblement plusieurs jours, mais Paul a trouvé comment. Tout d'abord, définir le contenu du message à transmettre, en l'occurrence, Jésus et la résurrection. Pas de grande référence historique ou théologique, on est aux antipodes des discours dont je parlais tout à l'heure, de Pierre ou même d'Étienne face aux Juifs. Un choix qui s'avère judicieux, puisque piqué par la curiosité, ses auditeurs lui accordent cette formidable tribune qu'est l'aréopage, sans même qu'il l'ait sollicité apparemment. Ensuite, jeter un pont en direction de la culture des Athéniens. Vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'adorer les divinités. Comment rejeter celui qui vient vers vous en montrant autant d'intérêt pour vous, pour qui vous êtes, qui a de la considération pour vous, pour votre culture? Et en même temps, le pont est jeté dans une direction bien précise. Il n'est pas tous azimuts. Paul reste le maître du sujet. Je vous parle de vos monuments sacrés, pas du style de vos maisons. Je vous parle d'un hôtel à vos dieux, pas de la table sur laquelle vous prenez vos repas. C'est ciblé. Et j'imagine que capter l'attention de ces gens habitués à entendre toutes sortes de discours n'est pas une mince affaire. Encore un parallèle avec notre temps, ils adoraient échanger les dernières nouvelles, ils y passaient le plus clair de leur temps, les réseaux sociaux. Ce foisonnement de nouvelles que nous nous échangeons quotidiennement, c'est avec cette instantanéité, mais aussi cette fugacité, une nouvelle en chassant une autre, capter l'attention d'une personne pour une réflexion profonde, approfondie et suivie n'est pas chose facile. Il faut vraiment trouver une façon qui se démarque du flot habituel. Et pour Paul, eh bien, ça ne marche pas trop mal, puisque jusque-là, il continue de l'écouter. La suite de son discours est dans le droit fil de son introduction. Paul s'étant intéressé à eux, il leur présente le Dieu dont il veut être à l'image. Un Dieu qui s'intéresse à vous personnellement. Un Dieu proche, au point de nous appeler ses enfants. Et même, ils n'hésitent pas à jeter un nouveau pont à ce sujet dans leur culture, vers leur culture, en citant deux poètes grecs, Épiménide et Aratos. Alors certes, ils jettent des ponts, mais ils ne se compromettent pas non plus. J'imagine qu'à choisir entre les épicuriens tournés vers les plaisirs et les stoïciens tournés vers la vertu, je l'imagine un tout petit peu plus proche de ces derniers, les stoïciens. Il aurait pu être tenté de s'associer avec eux, sans doute plus réceptif aux valeurs bibliques de vertu, de courage, de moralité. Il n'en fait rien, car leur philosophie est purement humaine et Dieu n'y occupe aucune place. Suite à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les premières critiques entendues, en tout cas que moi j'ai entendues sur les grands médias, ne sont pas venues des chrétiens, mais ont tout de même été exprimées au nom de valeurs chrétiennes de la France, de la part de personnes qui, d'une part, ne font pas profession de foi chrétienne, et d'autre part, peuvent promouvoir des idéologies d'exclusion en totale opposition avec nos valeurs. Paul ne s'y est pas trompé. Dialoguant avec tous, il veille à n'être confondu ni avec les uns, ni avec les autres, afin que son évangile ne soit pas altéré. Il n'emboîte pas le pas à toute parole semblant aller dans le sens de l'évangile. Il se garde bien d'utiliser leur argumentaire afin de ne pas être assimilé à eux et de surtout de ne pas hurler avec les loups. Concentré sur son fil directeur, le fil directeur de son discours, et ayant présenté un Dieu proche des hommes, il en vient à souligner la différence qui existe entre les dieux créés par les hommes à leur ressemblance et la réalité qui est inverse, un Dieu créateur des hommes à son image. Ce Dieu-là, qu'on ne doit pas confondre, dit-il, avec des idoles en or, en argent ou en marbre, règne au-dessus des hommes et contrairement à elles, il n'a pas besoin d'eux pour exister. Aujourd'hui, leur dit-il, le temps est venu pour les hommes de changer, car il a fixé un temps où il les jugera en toute justice, c'est-à-dire sa justice et non la leur, ses critères et non ceux qu'ils se seront donnés. Les dernières paroles de Paul sont celles qu'il s'est données pour objectif, dès le départ, d'annoncer Jésus, la résurrection. Au sujet desquels les Athéniens ont désormais tout loisir de se renseigner, puisque le mot a été prononcé. Si c'est un fait, on doit quand même pouvoir enquêter, savoir ce qui s'est passé réellement. Et même si on peut imaginer qu'il aurait aimé aller plus loin dans son développement, sa mission est accomplie, il a été interrompu dans son discours, il aurait certainement aimé aller plus loin, mais l'objectif est atteint, la mission est accomplie, à eux, en quelque sorte, de saisir la balle est dans leur camp, à eux de la saisir. Et temps de conclure, il nous faut l'accepter, nous vivons dans un monde païen qui n'a rien à envier à celui de l'apôtre Paul. L'indifférence, la moquerie, le désabusement, les attitudes blasées, nous les côtoyons tous les jours. Plus agressives, l'hostilité, la méfiance à l'égard des croyants, la propagande d'idéologies clivantes viennent régulièrement nous provoquer dans notre désir sincère de fraternité citoyenne et pas seulement chrétienne. L'immoralité sexuelle dans notre société est sans doute pour nous ce qu'était l'idolâtrie pour Paul à Athènes. Et un peu plus tard, d'ailleurs, à Corinthe, il fera même face aux deux. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens à subir ces tensions. La première responsabilité des croyants, c'est de mener une vie en accord avec la foi qu'ils professent. Notre foi n'est jamais autant attaquée que quand nous la décrédibilisons nous-mêmes par nos mauvaises actions et nos paroles inconsidérées. Ensuite, l'unité des croyants confrontés à tout ce qui les assaille est un enjeu majeur et sans doute un peu caché, mais réel. L'indignation est légitime, mais tous ne la vivent pas, ne la sentent pas, ne se sentent pas agressés au même niveau, sur le même plan. Ces moments où les croyants se sentent diversement offensés et stigmatisés doivent être l'occasion de resserrer leur rang, peut-être de s'unir autour d'une parole à apporter, comme l'a fait le CNEF dans son communiqué, et non de se déchirer sur les propos des uns ou le silence des autres. L'ennemi lui-même n'en demande pas tant, trop facile. L'indignation est légitime, mais à l'instar de Paul, prendre le temps de l'analyser et de la dominer, afin qu'elle ne soit pas le moteur de l'action amenée. La remplacer par l'amour et la compassion pour ceux qui se perdent, en s'éloignant toujours plus des commandements de Dieu. Que cet amour et cette compassion nous aident à jeter des ponts vers nos contemporains, afin de créer un climat propice à l'annonce de l'Évangile. Dans ce processus, la dénonciation du mal, que nous ne nions pas et que nous reconnaissons aussi en nous-mêmes, viendra en son temps. Alors nos interlocuteurs feront leur choix en toute connaissance de cause. Nous leur devons cette chance, comme nous en avons nous-mêmes bénéficié. Seuls ceux qui croient déjà un tout petit peu en Dieu sont capables d'appréhender leur état de perdition avec la lucidité nécessaire. Même Jonas ne contredira pas sur ce point. Les Ninivites crurent en Dieu avant de se repentir de leurs mauvaises actions. C'est écrit noir sur blanc. C'est remarquable parce que Jonas ne leur avait pas donné beaucoup de chance. Mais c'est tout ce qui différencie sa prédication de celle de Paul, avec ou sans amour, dans la compassion ou dans le jugement, dans la compréhension ou dans l'indifférence. En s'appropriant le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés, ou traînant les pieds dans une obéissance insensible. Avec l'humilité reconnaissante du coupable gracié ou drapé d'un tissu d'orgueil et de supériorité. Je crois que Paul nous a montré le bon chemin et l'Esprit de Dieu a fait ensuite ce qu'aucun homme ne peut faire pour d'autres hommes, en convaincre quelques-uns de péché et les amener à la repentance et au salut. Le résultat n'appartient pas à Paul, pas plus qu'il n'a appartenu à Jonas, à Pierre ou Étienne, mais à Dieu seul, capable d'agir en chaque circonstance, au plus profond des cœurs les plus endurcis. Et s'agissant du conseiller de Nice, de la femme nommée Damaris, ou encore de quelques autres anonymes, l'effort en valait la peine. Eh bien, si on a le temps, si on peut chanter, rechanter le chant Hosanna, Laurence, on peut. Est-ce que les musiciens sont encore là? Aïe, je ne vois plus Linda. Si Linda n'est pas là, ça va être compliqué. Si elle arrive. J'ai trouvé que ce chant était très à propos.